cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 17 juin 1995.
Nous avions commencé la dernière fois à réfléchir sur l'expérience que nous avons de l'unité et du multiple. Parce que c'est vraiment objet d'expérience, voyez, c'est du reste pour ça que la philosophie néoplatonicienne parce que c'est là toujours où notre expérience philosophique est première. suggérer qui fait la grandeur de l'œuvre, c'est cette unité qui, elle peut être dite, mais l'unité profonde est suggérée. Donc il y a beaucoup à dire là-dessus, hein, du point de vue philosophie de l'art, du point de vue de l'œuvre. L'un est suggéré, l'unité est suggérée. C'est au niveau affectif. Il se pose qu'au niveau de l'amitié, vous ne vous posez pas la question au point de vue des vertus. Faut-il mieux avoir une vertu ou d'avoir toutes les vertus? Moi, j'ai choisi retraite de prédilection. J'ai choisi une vertu dans ma vie. Je serai un homme juste.
Vers le bien. Donc le bien fait lui
lecture d'aujourd'hui, c'est pour briser cet académisme. Pour qu'il y ait une spontanéité plus grande, voyez l'affectivité. Petit curieux du reste. Un art affectif, un peu romantique par le fait même, fait que la multiplicité et la diversité affective se retrouvent en l'art. Alors qu'un art académique cherche l'unité. Manifestation du Saint-Esprit, c'était que tous comprennent dans leur langue propre ce qui était transmis. Ah, curieuse, hein? Saint-Esprit est anarchique. Eh bien, briser cette espèce de besoin d'unité, c'est curieux, ça. Et c'est quand même, là, c'est tradition religieuse, expérience religieuse. Je peux très bien faire l'expérience religieuse de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est l'éclatement, l'antithèse de la construction de la tour de Babel. C'est l'antithèse. La tour de Babel, on cherche l'unité. L'Esprit Saint fait l'éclatement. Parce que c'est l'amour. Alors, on retrouve du côté amour. C'est quand même très curieux. Du côté amour, vous retrouvez la diversité. Et du côté religieux, vous trouvez l'unité. Vous avez, dans les intégristes, c'est très net, c'est la vertu de religion qui domine plus que la foi. En réalité, l'intégrisme vient de la vertu de religion. C'est la Samaritaine. Elle troublait. Nos ancêtres disaient qu'il fallait adorer Dieu dans les du haut des montagnes. Et puis le peuple d'Israël dit que c'est dans le temple. Il y a une division. Ça va pas. lieu de sentir ça, là, rechercher l'unité du côté de la vertu, de religion. Parce qu'il y a un seul Dieu, créateur. Et voilà que la foi me dit qu'ils sont trois. Alors, est-ce que l'Esprit Saint fait ce chahut à la Pentecôte pour briser cette espèce de monopole d'unité pour découvrir son droit? C'est quand même très étonnant tout ça. Hein. Il faut essayer de le saisir au plan philosophique. Parce qu'on répète ça sans y penser. Hein. Il y a quand même quelque chose de très très curieux. Le phénomène religieux de l'intégrisme est un phénomène passionnant et passionné. Surtout, il est très passionné. Les intégristes, c'est un volant. Il n'y a plus de dialogue possible. Il n'y a plus de dialogue possible. C'est un. Tout ce qui n'est pas dans leur perspective, c'est fini. Il y a un amour farouche de l'unité. Et on ne peut pas y toucher. Et cette unité se manifeste dans la langue. Et dans les gestes. Il ne faut pas toucher au rite. C'est, ça a toujours été comme ça. On dit pourquoi ? On n'en sait rien. Mais ça a été comme ça. Mais il y a une espèce de force de l'unité. Alors que l'Esprit Saint, après ces 2000 ans de monothéisme, l'Esprit Saint brise les vertus théologales, son droit. Il y a une vertu de religion qui règne. La vertu de religion tend à régner. L'homme religieux est un homme qui tend vers l'unité. L'homme mystique chrétien tend vers la Trinité. En respectant l'unité, sans détruire l'unité, mais dans la surabondance de la Trinité. C'est l'amour qui dépasse le point de vue de la loi. C'est l'amour qui dépasse le point de vue religieux. Vous voyez, le problème de l'indumultible, posé jusqu'en Dieu. Et il faut quand même le saisir, ça. Alors vous allez me dire, mais c'est plus multiple, c'est très vrai. Mais vu de l'extérieur, alors, au point de vue philosophique, c'est vu de l'extérieur. Vu de l'extérieur, le christianisme apporte une force révolutionnaire. Il brise l'unité. Alors que l'unité, c'est tellement plus pacifique. C'est tellement mieux. On fait tous les mêmes gestes. On a tous le même costume. C'est tellement plus simple. Quand on aurait chacun sa perruque, c'est évident. Et on la choisirait. Tous l'unité. Ça, c'est la force religieuse. Vous voyez, dans toute communauté religieuse, il y a le poids religieux qui fait l'unité. Il y a la contemplation qui fait la diversité. Tout le temps. Il y a là un problème foncier qu'on doit expérimenter. Parce que si on n'expérimente pas, il y aura toujours quelque chose en nous qui sera irrationnel et qui ne sera pas vu profondément dans sa réalité. Pourquoi ça ? Quand vous êtes, donc là vous avez l'étoile, expérience, oui, l'expérience artistique, l'expérience morale de l'amitié, qui tend vers l'unité mais qui respecte la diversité, l'expérience religieuse qui tend vers l'unité d'une façon farouche, un seul Dieu, une seule religion. C'est la passion religieuse et la passion liturgique. Vous savez bien, c'est la passion la plus terrible. Terrible dans le très bon sens. C'est une bonne passion. Mais c'est une passion qui demande d'être dominée par les vertus théologales. Pour le chrétien, je regarde ça de l'extérieur en philosophe. Mais je constate ça. Je constate. Au plan politique, on l'avait vu aussi, au plan politique, il n'y a pas d'unité. Aristote farouchement dit que la grande erreur de Platon, c'est de chercher l'unité au plan politique. Et c'est dit avec force. Aristote a combattu ça comme la grande erreur de Platon, parce que l'unité tend vers l'idéologie tyrannique. Mais des noms, hein, je ne les mets pas au point de vue politique. Mais voyez ça, toujours, l'aspect tyrannique tend vers l'unité. L'unité de l'école, de l'éducation. L'unité partout. Alors, ça fait la tyrannie. Tyrannie de droite, tyrannie de gauche. C'est la même. Il n'y a qu'un petit changement. Il y a une porte ouverte, en plus, pour la tyrannie de droite. Et quand, justement, la démocratie, qui est le plaidoyer du multiple, la démocratie, c'est le plaidoyer du multiple, c'est le peuple qui crie. Et qui crie plus ou moins fort, de façon plus ou moins aiguë, de façon plus ou moins profonde. Quand la démocratie tend à se décomposer, ce qu'on voit aujourd'hui. La démocratie, il y a eu l'ère de la démocratie, mais elle se dégrade. Tous les scandales aujourd'hui dans la démocratie, tous les scandales d'argent, tous les scandales de mœurs, ça se dégrade. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un renouveau. Une tyrannie vers l'unité. Ça, c'est très net. Alors, là encore, vous voyez, au plan politique, vous avez où le plaidoyer de la multiplicité. Tous les citoyens sont égaux. Et tous ont la possibilité de pouvoir être président d'une république plus ou moins démocratique. C'est le plaidoyer de la multiplicité. Et vous avez le plaidoyer de l'unité. Parce que on ne peut commander que si on est une personne. Dans la démocratie, c'est la force du commandement qui disparaît. Parce qu'on entend toutes les voix. Alors c'est les partis politiques. Et les partis politiques détruisent le sens politique. Alors la réaction, c'est identifier autorité et pouvoir. C'est la tyrannie. Alors c'est l'unité excessive. Et on veut l'unité pour tout. Et ce n'est plus, on ne respecte même plus la diversité de la famille. On tend à l'anéantir et faire que l'autorité de la communauté repose sur l'individu et non plus la famille. Mais quand dans une politique, on respecte la famille, on respecte au moins la dualité et la communauté familiale, qui n'est pas une. La famille n'est pas une. Même la sainte famille n'est pas une. Il y en a trois. Tandis que dans la tyrannie, on supprime même la famille pour ne regarder que les individus. Et il y aurait, et ça ce serait très intéressant à voir, parce que le philosophe s'intéresse au point de vue éthique religieuse. Il y aurait au point de vue éthique religieuse et éthique chrétienne les deux tendances. La regarder que l'individu en supprimant la vie religieuse. Oui, c'est tyrannique. Et ceux qui respectent la vie religieuse, comme la famille, et qui donc respectent la communauté. Oui, on voit ça de façon très très nette. Actuellement, certains demandent que la communauté soit invitée pour prendre la place d'un curé. On regarde l'individu. D'autres disent la communauté comme communauté. On invite les individus ou les personnes, si vous aimez mieux, ou la communauté. Il faut sentir ça à titre d'expérience. C'est très curieux que la vie religieuse plaide la communauté et maintient l'aspect démocratique, mais du peuple de Dieu et de la famille encore plus. Parce que ce sont deux multiplicités très différentes. La multiplicité de la famille est organique. Naturellement, la vie religieuse est organique, surnaturellement et religieusement. Tandis que le peuple n'est pas organique naturellement, il implique les lois. Il n'y a pas de loi au point de vue de la famille. Il y a des usages, il y a des coutumes, il y a des traditions. Au point de vue politique, il y a des lois. Il y a une autorité législative. Et au point de vue politique, alors, il y a l'aspect conventionnel. Et très vite, on aura deux conceptions de la politique. Une démocratique, on insiste sur la multiplicité. Et l'autre tyrannique, on insiste sur l'autorité. C'est les deux extrêmes, c'est ça qui est intéressant. Et l'équilibre sera l'intermédiaire, le véritable équilibre politique. Parce que c'est monstrueux, une politique qui n'est que démocratique, une politique qui n'est que pour l'un. La politique est complexe, expérience de l'un et du multiple. Allons plus loin, avant de chercher qu'est-ce que c'est que l'un. Puisque c'est ça qu'on cherche. Mais on regarde d'abord l'expérience. Il faut d'abord se plonger dans l'expérience et la description. Au plan spéculatif, il y a la découverte des principes. Le principe, c'est ce qui est premier. L'expérience est multiple. Et on unifie l'expérience et la diversité de l'expérience par l'induction. Tiens, la vitalité de l'intelligence, c'est l'induction. Celui qui n'a jamais rien induit dans sa vie reste un ver à mille pattes, philosophiquement parlant. Vous savez, tu as vu un ver à mille pattes? C'est pas très beau. Il y a des philosophes ver à mille pattes. Ils sont incapables de saisir un principe. Là, étant incapables d'induction, il reste le ver à mille pattes. La description. De droite, de gauche, d'en haut, en bas. C'est tout. La jeunesse, les voyages forment la jeunesse. Et il y a des philosophes qui ne sont jamais adultes. Ils sont toujours dans la description. Et un tir tout le temps dans la description. Ver à mille pattes. Ils n'atteignent pas un principe. C'est curieux, cette soif de l'intelligence d'atteindre les principes. Cette montée verticale de l'induction pour atteindre les principes. Pour atteindre quelque chose de premier. Donc d'atteindre l'un. Quelque chose qui tient par soi. Le ver à mille pattes, chaque patte dépend de l'autre patte. comme il y en a 1000, ça fait 1000 dépendances. Et on colle au sol, on n'arrive pas à décoller, impossible. C'est un avion qui n'arrive pas à décoller. Là, il fait toujours le tour de la piste indéfiniment, comme décollement. La philosophie de la phénoménologie, c'est, vous voyez, réparer le verre à 1000 pattes, qui va de fait vouloir, par l'intériorité, trouver l'unité, l'immanence. C'est curieux. La phénoménologie, vous voyez, c'est la grimace de l'induction. On veut, par l'intériorité, par le vécu, retrouver l'unité. On ne peut pas la trouver non plus. On trouve une multiplicité d'expériences intérieures. Donc, l'intelligence ne peut pas être satisfaite par l'aspect descriptif. La phénoménologie décrit. Elle ne peut pas faire autrement. Elle décrit. Et elle reste dans le multiple. Elle peut avoir une certaine unité. Elle cherche cette unité par la permanence, par l'aspect du fondement. C'est le fondement qui va essayer de faire l'unité, et non plus la finalité. Alors vous voyez qu'en philosophie spéculative, on n'a pas l'unité. Il y a la recherche des 4 principes ou des 5 principes. Et la théologie, la métaphysique, la philosophie première, elle a 2 principes. La substance et l'être en acte. Elle n'arrive pas à l'unité. C'est la théologie naturelle qui seule atteint l'unité. Dieu est unique comme créateur. Il ne peut pas y avoir 2 créateurs. C'est impossible. Il n'y en a qu'un. Donc, la théologie naturelle aboutit à l'unité. Et puis, il y a aussi la logique. La grande séduction de la logique, c'est l'universel. Et l'universel, c'est le ver à 1000 pattes. Vous voyez, la définition de l'universel, donc l'universel uno ad multa, c'est l'intégration d'un l'un du multiple. De la logique. Alors c'est très curieux ça. Et c'est très intéressant de voir l'intelligence rationnelle lutte contre la diversité. Il faut ramener toute la diversité à l'unité. Vous savez comment saint Thomas définit le multiple ? Vers l'unité, vers l'universel. Et je crois, voyez, que c'est comme la vengeance l'intelligence devant la multiplicité. On se rattrape. Ceux qui mettent la logique au-dessus de tout, c'est toujours des gens qui se rattrapent, qui n'acceptent pas la diversité. Un tyran est toujours logique. Vous savez, il y a ce théâtre italien, j'oublie toujours le nom, peu importe, qui montre que le fou reste logique. C'est même un des signes de la folie de ne plus avoir que la logique. Oui. Je vous disais qu'il y avait des gens qui absorbaient la justice et la loi. C'est pas très drôle au plan moral. Mais au plan spéculatif, c'est le logicien qui n'est que logicien et qui ramène tout à l'universel. Occam. Et c'est pire pour un théologien et c'est pire pour un franciscain. Un franciscain logicien, c'est corruptio optimi pessima. La corruption de Saint-François, il n'est pas logique pour un poussin. C'est le cœur. Et le cœur n'est pas logique pour un pouce. Ramenez tout saint homme, tout saint François à la logique. C'est effrayant. Et ramenez la diversité de l'évangile. À la Samaritaine, Jésus face à Pierre, Jésus face à Jean, Jésus face à, et ainsi de suite, à chaque individu. C'est la diversité. Et on ramène ça à l'unité. La scolastique fait ça. Elle met la logique au-dessus de tout. Et on commence la philosophie par la logique. Et on ramène tout à la logique. Et alors on fait une théologie logique. Sens artistique, ramener nudité, c'est appauvrir. Il peut y avoir un œcuménisme appauvrissant. Il peut y avoir un œcuménisme enrichissant. L'œcuménisme fait, par le point de vue logique, est appauvrissant. L'œcuménisme fait, dans une perspective analogique, l'Orient et l'Occident, en respectant parfaitement ce qu'il y a de propre à l'Orient et ce qu'il y a de propre à l'Occident, est enrichissant. Mais si je veux ramener ce qu'il y a de commun à l'Orient et supprimer l'originalité de l'Orient et de l'Occident, c'est appauvrissant. C'est générique. Donc vous voyez qu'on touche, avec le problème de l'un et du multiple, on touche à tout. Très bien, qu'on, si on n'est pas très attentif, qu'on peut dire que le problème de l'un et du multiple, c'est le problème qui enveloppe toute la philosophie. Il l'enveloppe. Il l'enveloppe matériellement, génériquement. Il enveloppe tout. Et, d'une certaine manière, il touche le sommet. L'homme. Dieu est un Dieu unique, le Créateur. Universelle. des êtres de raison qui, d'une certaine manière, s'impliquent l'un dans l'autre. Et ceci, c'est très important de voir ça. C'est que l'intelligence rationnelle, c'est le mode humain. Et